sur qu'est-ce qu'une religion. Alors, en introduction, je vais essayer un petit peu de différencier la religion de la secte, par exemple. Ensuite, en première partie, on verra la définition de la religion. Et en deuxième partie, on fera un panorama des religions actuelles. Alors d'abord, différencier religion et secte, c'est une question qu'on pose sans arrêt. Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'une secte? Et je réponds en général qu'il n'y a pas vraiment de limite, de frontière entre les deux. Parfois on dit une secte c'est une petite religion, mais en réalité il y a des sectes qui comptent des millions de personnes et il y a des religions qui en comptent extrêmement peu. Par exemple, la religion de Zoroastre, vous avez dû voir en philo Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Hein. Bon, Zarathoustra, Zoroastre, c'est pareil. C'était une des grandes religions de l'Antiquité, en Perse notamment. Ben, aujourd'hui, cette grande religion ne compte plus qu'une centaine de milliers de personnes à peu près. Donc, conclusion, le nombre n'est sans doute pas le critère premier. Ensuite, il ne faut pas croire que religion et secte soient entièrement séparées. On peut dire qu'il y a aussi des sectes dans les grandes religions, des comportements sectaires. Vous avez peut-être vu récemment à la télé ou dans la presse, pour des cas d'abus sexuels d'une communauté catholique dans le sud-ouest. Bon, on peut dire que c'est une secte et en même temps c'est à l'intérieur d'une église. Donc, il n'y a pas de frontière entre une secte et une religion. J'ai l'habitude de dire qu'une religion, c'est une secte qui a réussi, car si vous relisez le Nouveau Testament, vous verrez que les premiers chrétiens, on les appelait la secte des amis de Jésus, aïrésis en grec. Il y en a qui font du grec? Ah, c'est bien. Donc, progressivement, cette secte est devenue religion. Il n'y a pas de frontière étanche. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Alors, en première partie, définition d'une religion. Alors, ceux qui ont fait du latin vont être heureux, mais les autres ne seront pas malheureux. En réalité, il est très difficile de savoir d'où vient le mot religion. Hein. Alors, on a fait deux hypothèses, une assez peu probable et une autre plus probable. Celle qui est assez peu probable ou justifiée, c'est religion, vient du verbe latin religare, qui veut dire relier. Pourquoi pas, la religion, ça relie des gens. Mais en même temps, la religion, ça divise autant que ça unit, les guerres de religion. Bon. Alors, ceux qui font cette hypothèse disent en gros, la religion, ça relie les hommes à Dieu, au ciel, et ça relie les hommes entre eux. Petit problème, quid de ceux qui ne sont pas de la même religion ou qui ne croient pas au ciel? Bon. Ce qui relie, c'est pas forcément la religion. Ce qui relie, ça peut être quelque chose dans la vie auquel on s'oppose. Alors là, il faut relire ce très beau poème d'Aragon, dédié à Gabriel Péri, membre du Parti communiste, fusillé, et Honoré d'Estienne d'Orves, fusillé aussi, catholique, et tous les deux grands résistants. Et Aragon les réunit, celui qui croit au ciel, celui qui n'y croit pas, qui était réuni dans la résistance. Donc en réalité, la religion ça divise autant que ça unit. Alors il y a une autre hypothèse plus probable, c'est relégué. Et ça ne veut pas dire tout à fait relié, ça veut dire plutôt recueillir. Alors, légueré, l'ego, à la première personne du singulier, légueré c'est l'infinitif, ça vient d'une racine indo-européenne leg, L-E-G, que vous retrouvez en grec, l'ego ça veut dire je dis, c'est-à-dire je recueille des sons et j'en fais des mots. Et l'ego en latin, ça veut dire je recueille des lettres et j'en fais une lecture, je lis. Je dis en grec, je lis en latin. Et dans les deux cas, je remets ensemble, un petit peu comme un bouquet de fleurs que vous assemblez. Et on peut dire que le Lego, le jeu du Lego, c'est pareil. C'est-à-dire vous mettez ensemble des cubes de plastique ou autre et vous en faites un jeu, un jouet. Alors ça, c'est reléguéré. Et ça va assez bien avec la religion, puisque la religion recueille, elle recueille des traditions qu'elle met par écrit dans des livres qui sont des recueils de textes sacrés. Et puis il y a aussi le recueillement de l'homme en prière qui recueille ensemble ses pensées, qui unit, qui fusionne cela pour un dialogue avec Dieu, etc. Bon. Et le substantif, c'est-à-dire le nom qui correspond à religere, c'est religio. Et très curieusement, ça n'a pas du tout le même sens que le verbe, c'est pas recueillement, c'est scrupule. Pourquoi? Parce que les latins avaient observé que l'être religieux, l'homme religieux, a un sens moral développé et peut-être hyper développé, donc il est assez scrupuleux sur ses obligations dans tous les domaines. Et c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire des religions, c'est aussi assez lié à l'histoire de la morale dans tous les domaines, y compris bien entendu la morale sexuelle et les scrupules qui vont ensemble. Voilà en gros pour le latin, donc relegere, recueillir, religio, scrupule, je pense que c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Maintenant, voyons les Grecs, puisqu'il y en a quelques-uns qui font ou qui ont fait du grec. C'est totalement différent. C'est-à-dire, religion, c'est thérapeia. TH. Alors, thérapeia, ça donnait thérapie en français. Alors, thérapeia en grec, ce sont les soins. Et le verbe thérapeo veut dire tantôt soigner, tantôt guérir. Ce qui fait que dans le Nouveau Testament, quand on lit Jésus guérit, le texte grec, c'est thérapeuen, ça peut être soigné, ça peut être guérir. Ce sont les soins. Mais notamment les soins apportés aux autels des dieux. C'est-à-dire, le fait que les Grecs fleurissaient les autels, apportaient des offrandes, etc. Et donc, ils avaient un soin à l'égard des autels et donc à l'égard des dieux. Et le thérapeute, c'est celui qui soigne les hommes, mais à l'origine, c'était les soins apportés aux dieux. Donc c'est beaucoup autour de la notion de soins et de guérison. Il faut savoir que la médecine grecque se pratiquait dans les sanctuaires, notamment dans le sanctuaire d'Épidaure, E-P-I-D-A-U-R-E, où des prêtres étaient médecins, et le fils d'un de ces prêtres médecins était le célèbre Hippocrate, qui est le patron des médecins, le fameux serment d'Hippocrate. Et il y avait un lien entre médecine et religion qui était très fort. Et en réaction, Hippocrate a été le premier à dire que les maladies avaient des causes naturelles et non pas surnaturelles. Et il a dit « ne craignez pas les dieux », ce qui est exactement ce que disaient deux philosophes que vous avez peut-être étudiés, Épicure et Démocrite. Donc pour les Grecs, il y avait dans l'Antiquité un lien étroit entre religion, soins, médecine, etc., etc. Maintenant, on peut aller plus loin, on peut aller en Chine, et en Chine, en chinois, religion se dit jiao, J-I-A-O. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez, en chinois? En gros, ça veut dire étude. enseignement. C'est-à-dire que les Chinois renient l'activité spirituelle à l'activité intellectuelle. Et ça, ça date de Confucius, le grand philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, pour qui le meilleur dans l'humanité, c'était l'étude, et le plus détestable, l'ignorance. Alors malheureusement, il y avait un versant social un peu réactionnaire, hein, il méprisait les paysans illettrés, et à l'inverse, il y a eu jusqu'en 1905 les concours de fonctionnaires chinois avec un culte du diplôme. C'est-à-dire que pour les Chinois, les meilleurs élèves aux grands concours de recrutement de la fonction publique, les concours impériaux, étaient vénérés comme des héros et presque des demi-dieux. On les portait sur des palanquins, des chaises à porteurs dans toute la ville, etc. Et c'était pareil au Vietnam, en Corée, etc. Et d'ailleurs, j'ai participé au renouveau du culte du diplôme, ça continue encore en régime communiste au Vietnam, à Hanoï, parce que dans ces civilisations confucéennes, Chine, Corée, Vietnam et un peu Japon, il y a presque une vénération religieuse pour les études et les meilleurs étudiants, un culte du doctorat par exemple, poussé à l'extrême. Ce qui explique notamment le fameux classement de Shanghai des universités mondiales. Bon, ça, c'est la Chine intellectuelle et spirituelle sont souvent reliées dans la tradition chinoise. Et je précise que pour une autre religion chinoise, le taoïsme, religion a beaucoup à voir avec médecine. Vous connaissez tous le taoïsme avec l'acupuncture, par exemple, qui est une activité à l'origine des prêtres taoïstes, avec les petites aiguilles qu'on vous plante dans le corps. Vous connaissez la gymnastique du tai chi, c'est taoïste aussi. Donc pour le taoïsme, la santé, la longue vie, surtout, a beaucoup à voir avec la religion. Alors, changeons de continent et arrivons en Afrique. C'est pas du tout pareil. Et là, en Afrique, on a eu des mots pour définir les religions apportées par les Européens ou par les Arabes, c'est-à-dire l'islam et le christianisme. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, les religions africaines traditionnelles, on y reviendra, les religions animistes, sont des religions locales. Et quand on a amené des grandes religions universelles comme l'islam ou comme le christianisme, en Afrique subsaharienne, les gens ont été très, très surpris, un peu désarçonnés au début. Et par exemple, si vous allez au Cameroun, en pays Douala, c'est une région, en langue locale, on a appelé religion Ebassi, E-B-A-2-S-I, et ça veut dire petit voile, c'était, ou petit fichu, c'était le couvre-chef, hein, le chapeau, ou le voile, ou le foulard, que les missionnaires catholiques ou protestants demandaient aux africaines de mettre sur la tête. À l'époque, les femmes allaient à l'église tête couverte. De même, dans le Pacifique, en Nouvelle-Guinée, on a appelé le christianisme religion du cargo, parce que c'était la religion prêchée par des missionnaires qui descendaient du bateau. Donc il faut bien comprendre que selon le lieu où l'on parle, le continent, le pays, la perception de la religion est forcément différente. Yeah. Voilà ce qu'on peut dire sur définition de la religion. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule définition, il y en a plusieurs. Par exemple, on ne peut pas dire que Dieu soit présent dans toutes les religions, hein, dans le bouddhisme primitif, ce qu'on appelle la doctrine des anciens, Theravada, le Bouddha ne se prononce pas sur l'existence ou la non-existence d'un dieu ou de dieu au pluriel. Donc même la notion de dieu n'est pas forcément caractéristique d'une religion. De la même façon en Chine, où l'empereur était considéré comme fils du ciel, la notion de ciel n'est pas forcément reliée à une divinité, et on n'en sait rien, car comme le disait Confucius, le ciel ne parle pas. Donc la notion d'une religion révélée par un dieu ne correspond pas forcément à toutes les religions. Pour le bouddhisme, la doctrine, c'est plus une illumination intérieure qu'une révélation extérieure. Ajoutons point capital que les religions peuvent s'exclure ou se compléter. Si vous prenez les religions issues d'Abraham, comme on dit, du Proche-Orient, judaïsme, christianisme, islam, on est soit juif, soit chrétien, soit musulman. On n'est pas les trois à la fois. Or, au Vietnam, en Chine, vous pouvez être un peu bouddhiste, un peu taoïste, un peu confucianiste, et pas forcément contradictoire. Au Japon, on est souvent un peu shintoïste et un peu bouddhiste. Le bouddhisme est un peu une forme d'apprivoisement de la souffrance, de la mort, donc pour les enterrements, tout ça, on est assez, pour les obsèques, on est assez bouddhiste. Alors que pour les naissances et les mariages, on est plutôt shintoïste, une religion japonaise, qui insiste beaucoup sur le culte de la fécondité, de la fertilité. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'il y a une dizaine d'années, la pilule anticonceptionnelle était interdite au Japon, et c'est pourquoi des médecins japonais, comme le célèbre docteur Ogino, avaient inventé une méthode des températures plus ou moins valables, et c'est aussi pour ça que le Japon a longtemps été le premier pays producteur de préservatifs, parce que le préservatif c'est du latex, donc c'est naturel, alors que la pilule c'est chimique. Donc shintoïsme c'est religion de la fertilité, de la fécondité. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, le premier pays producteur mondial de préservatifs est la Malaisie, bon, qui est un pays très musulman par ailleurs. Vous voyez que la religion peut avoir des liens avec plein d'éléments. Alors maintenant passons à notre deuxième partie, le panorama des religions d'aujourd'hui. Alors, quels critères prendre? Je crois que le moins mauvais critère est quand même celui du nombre, mais c'est un critère très délicat à manier. Pourquoi? Parce que quand je vais vous dire il y a tant de chrétiens, il y a tant de musulmans, etc., il y a des chrétiens qui fourrent jamais les pieds à l'église, et il y a des musulmans qui fourrent jamais les pieds à la mosquée. D'autre part, il y a des problèmes de définition encore et de comptabilité. Or, si la comptabilité n'est pas la même, la compatibilité des chiffres entre religions n'est pas valable. Par exemple, il y a des religions qui se transmettent et il y a des religions qui s'acquièrent. Normalement, vous êtes juif si votre mère était juive, même si certains juifs libéraux acceptent que la filiation soit paternelle. Vous êtes musulman ou musulmane si votre père est musulman. Donc c'est une transmission dans la famille, par la filiation. Une des raisons pour lesquelles l'islam n'accepte pas l'adoption en principe. Bon. Vous êtes hindou ou hindouiste si vous êtes né dans une famille hindoue, dans une caste hindouiste. Bon. Par contre, vous êtes bouddhiste si vous avez pris refuge dans le Bouddha, dans sa loi, dharma et dans sa communauté bouddhiste sangha. Et donc c'est une formule que vous prononcez à partir de l'âge de 7 ans, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Vos parents, bouddhistes ou pas bouddhistes, on n'a rien à faire. Et en même temps, cette prise de refuge n'est pas éternelle. C'est-à-dire vous pouvez renoncer au bouddhisme quand vous voulez. Pour les chrétiens, est chrétien celui qui est baptisé. Que ses parents aient toutes sortes de religions, rien à voir. Vous pouvez très bien être chrétien, ne pas faire baptiser vos enfants, ils ne seront pas baptisés. À l'inverse, vous pouvez être fils ou fille de parents non chrétiens, vous êtes baptisé, vous êtes chrétien. Et le baptême, c'est pour la vie, puisque c'est une grâce qui est donnée par Dieu, donc on peut se faire rayer d'une liste de baptême dans les registres de la paroisse, ça n'a aucune conséquence théologique. Donc vous voyez qu'il y a des religions acquises et des religions héritées. C'est pas du tout pareil. Parce qu'à partir du moment où vous êtes classé dans une religion parce que vos parents, parce que vous êtes né dans une famille de cette religion, bon ben par exemple, en Arabie, vous aurez forcément 100% de musulmans parce que tout le monde a un père musulman. À partir du moment où, au contraire, il faut un acte d'acquisition de la religion, forcément, ça baisse. Par exemple, en France, le pourcentage de baptisés dans la population baisse, c'est-à-dire il y a des parents qui font baptiser, qui ne font pas baptiser leurs enfants. Sous ces réserves près, on peut dire que est de très loin la première religion du monde est le christianisme. C'est le christianisme, naturellement, il faut le considérer dans sa globalité, catholique, protestant, orthodoxe. Il y a à peu près 2 milliards de baptisés, en ce moment un peu plus, sur 7 milliards de terriens. Donc ça fait 30% de la population mondiale. Sur ces 2 milliards de baptisés, il y a un peu plus de 200 millions d'orthodoxes, c'est-à-dire par rapport à 1900, 5 fois moins, puisque la population mondiale a été multipliée par 5 depuis 1900. Et pour deux raisons. Un, les pays orthodoxes avaient peu de colonies, donc peu de missionnaires. Et deux, les pays orthodoxes ont connu le communisme athée, le rideau de fer en Russie, etc. Ensuite, deuxième composante du christianisme, le catholicisme, 1,2 milliard de catholiques environ, c'est-à-dire la même proportion qu'en 1900 dans la population mondiale. Un peu moins d'un terrien sur 6 est catholique. Grâce notamment aux colonies, c'est-à-dire aux missionnaires, notamment aux missionnaires français catholiques en Afrique ou en Asie ou ailleurs, le catholicisme s'est propagé, et puis grâce à Christophe Colomb, bien entendu, il s'est propagé en Amérique, notamment en Amérique latine. La grande différence avec autrefois, c'est que les catholiques ne se situent plus au même endroit de la planète, notamment en raison des évolutions démographiques. Alors, par exemple, en 1939, les trois premiers pays catholiques du monde étaient dans l'ordre la France, qu'on appelait fille aînée de l'Église. En deux, l'Allemagne, qui était l'Allemagne du Grand Reich, du Troisième Reich, et qui comprenait l'Autriche. Et en trois, l'Italie. Or, aujourd'hui, les trois premiers pays catholiques de la planète sont dans l'ordre le Brésil, le Mexique, deux pays d'Amérique latine, et en trois, les Philippines, un pays d'Asie. Ensuite, en quatre, il doit y avoir, je pense, États-Unis, en cinq, Italie, et en six, France. Bon. Mais il est évident que quand vous voyez le nombre de naissances dans certains pays au XXe siècle, bon ben ça a été énorme. L'évolution démographique, la progression démographique, alors qu'en Europe ça a été plus faible, et en plus en France on a eu deux guerres mondiales, il ne faudrait pas l'oublier. Bon. Ça c'est le catholicisme, 1,2 milliard de baptisés. Ensuite on a le protestantisme. Alors le protestantisme comptait environ 600 millions de protestants, peut-être un peu plus d'ailleurs. Alors, ce protestantisme, il est donc né à la Réforme, donc au XVIe siècle, et lui aussi, il évolue énormément. Il évolue beaucoup parce que, si vous prenez encore 1939, les trois premiers pays protestants du monde étaient dans l'ordre 1 États-Unis, 2 Grande-Bretagne, 3 Allemagne à peu près. Alors, aujourd'hui, c'est toujours 1 États-Unis, de Nigeria, parce qu'il y a eu beaucoup de missionnaires anglais au Nigeria, et trois à peu près ex aequo, Grande-Bretagne et Allemagne. Donc le protestantisme s'est largement étendu sur les cinq continents, grâce aux missionnaires et notamment aux missionnaires anglophones, quelques francophones aussi. Ce protestantisme connaît aussi des mutations à l'intérieur, puisque les grandes églises du XVIe siècle, comme les luthériens, les calvinistes, sont un peu en baisse, alors qu'il y a les nouveaux évangéliques, les protestants évangéliques, souvent afro-américains, qui ont créé des nouvelles églises partout, qui sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, en nombre, même en France, ils sont nettement majoritaires par rapport aux luthériens et aux calvinistes. Ils ont souvent une lecture plus littérale de la Bible, hein, le monde créé en sept jours, etc., et souvent une attitude plus combative à l'égard de l'islam, alors que les luthériens et les calvinistes sont beaucoup plus libéraux. Entre les deux, il y a les anglicans, vous savez, une forme de protestantisme née au XVIe siècle, quand le roi d'Angleterre Henri VIII a refusé la décision du pape qui ne l'autorisait pas à divorcer. Ben, l'anglicanisme est une religion qui se maintient très très bien dans le monde, mais plus tellement en Angleterre, beaucoup plus en Afrique, et même en Amérique, avec des Afro-Américains ou des Africains qui sont désormais majoritaires dans l'anglicanisme au Nigeria, au Ghana, au Kenya, et même jusqu'en Bornéo, en Malaisie. Donc, dans l'ensemble, là encore, c'est la démographie qui commande. Voilà pour le christianisme, première religion du monde. Alors, deuxième religion du monde, l'islam, à peu près 1,3 milliard de musulmans. C'est un pourcentage qui augmente un peu dans la population mondiale. Hein. Très légèrement, mais par rapport à l'évolution démographique, la proportion de musulmans sur la planète augmente un peu, en bonne partie parce que le taux de natalité des pays musulmans est dans l'ensemble relativement élevé, parce que dans l'ensemble, ce sont des pays plutôt plus pauvres que la moyenne mondiale, et vous savez que plus on est pauvre, plus on fait des bébés. C'est la seule richesse. Bon. Alors, sur ce 1,3 milliard de musulmans, il y en a à peu près 15% qui sont des chiites, c'est-à-dire une partie de l'islam qui a fait scission, c'est le sens du mot chiisme, peu de temps après la mort du prophète Mohammed, pour des raisons de succession du prophète. Et eux, ils se sont groupés autour du gendre du prophète, Ali, et ils sont assez répandus en Iran, bien sûr, en Irak, mais aussi au Pakistan. Il y a une branche qu'on appelle les Ismaéliens, que tous les turfistes connaissent, puisque leur chef, c'est l'Aga Khan, qui a une célèbre écurie de course. Bon, ça, c'est le chiisme, c'est à peu près 15% des 1,3 milliard. Le reste, c'est les sunnites, c'est-à-dire ceux de la tradition majoritaire, la sunna. Alors, là encore, je dirais que les musulmans ont beaucoup évolué dans leur répartition géographique sur la planète. Alors, petite question, si vous répondez, vous avez 20 sur 20 en histoire au bac. Quels étaient dans l'ordre les trois premiers pays musulmans du monde en 1939? Hein? Ah, c'est bien ça. En un. En deux. Hein? Les Pays-Bas, c'est bien. Et en trois. Et pas mal ça. En trois, ben, la France. Bon, vous aurez 19 sur 20. Alors, la Grande-Bretagne, grâce à l'Empire des Indes, qui était sous souveraineté britannique, et ça comportait le Pakistan, le Bangladesh à l'époque, tout ça, en deux, effectivement, les Pays-Bas, qui avaient comme colonie l'Indonésie, capitale Batavia à l'époque, aujourd'hui Jakarta, et en 3 la France, car dans l'Empire français de 100 millions d'habitants, il y avait 30 millions de musulmans, dont 7 millions dans les départements français d'Algérie. Bon. Si vous prenez aujourd'hui les premiers pays musulmans du monde, 1, Indonésie, 2, Pakistan, 3, Bangladesh, 4, Inde, et ensuite, vous avez Iran, Turquie, Égypte, et puis en 10e, Maroc, en 11e, Algérie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'islam est de plus en plus une religion extrême orientale. À l'est de l'Indus, dans le monde, sur 6 musulmans, un seul est arabe. Les autres, ils sont d'autres langues maternelles. C'est un point très important parce que nous, quand on parle d'islam en France, on pense surtout au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, ou aux Turcs, surtout en Alsace. On pense pas du tout à ces musulmans de l'est de l'Indus. C'est sans doute une évolution très très importante, d'autant que cette partie du monde, Indonésie, Malaisie, Inde, est une partie du monde qui est en expansion, pas seulement démographique, mais aussi économique. Ça me paraît très important. Puis bien sûr, il y a l'Arabie, les pays du pétrole, mais sur le plan démographique, ça ne pèse pas énormément. Voilà pour l'islam, deuxième religion du monde. Troisième religion de la planète, l'hindouisme. 850 millions d'hindous. Ça augmente à la même vitesse que la population mondiale et que la population de l'Inde, en gros. C'est une religion vraiment de l'Inde qui n'est pratiquée que par des Indiens de l'Inde ou de la diaspora indienne en Angleterre, un tout petit peu en France, il y en a en région parisienne, un petit peu aussi à Bali, en Indonésie. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment une religion indienne. On ne peut pas séparer indianité de hindouisme, hindouisme étant un mot créé par les Anglais au XVIIe siècle et qui renvoie au fleuve Indus, qui est le grand fleuve situé à l'ouest du sous-continent indien. Voilà 3 hindouismes. Alors 4, bouddhisme. Un peu plus de 400 millions de bouddhistes dans le monde, c'est-à-dire guère plus qu'en 1900, alors que la population mondiale a été multipliée par 5. Et pour les deux mêmes raisons que pour l'orthodoxie, un, les pays bouddhistes n'avaient pas de colonies, ils étaient même presque tous colonisés, et deux, le rideau de bambou, équivalent du rideau de fer, c'est-à-dire le marxisme en Chine et en Indochine. Est-ce que vous connaissez, alors là vous aurez 20 sur 20 en histoire au bac, mais tout le monde ne passe pas d'histoire au bac maintenant, si encore cette année, oui, ça sera fini l'an prochain. Quels sont les deux pays d'Asie à n'avoir jamais été colonisés? Le Japon, un, et le deuxième? La Thaïlande. Et quel est l'unique pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé? Liberia, qui a été créé par les Américains. Puis un autre qui a jamais été, ou presque jamais colonisé, c'est l'Éthiopie. Bon, Mussolini y a fait un petit tour, mais ça n'a pas marché. Et avant, en 1880 et quelques, les Italiens avaient été battus par les Éthiopiens. C'est la première défaite militaire de l'homme blanc, l'Éthiopie. La deuxième, vous la connaissez tous, La deuxième défaite militaire de l'homme blanc, c'est la guerre russo-japonaise de 1905. Pour revenir à l'Asie, l'Asie a été colonisée, n'a pas eu de colonie, et donc le bouddhisme n'a pas été exporté, ou très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 98% des bouddhistes sont en Asie et 2% en Amérique ou en Europe. Alors, il y a plusieurs formes de bouddhisme. Celui de la tradition, le Theravada, est pratiqué à Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, extrême sud du Vietnam. et ce qu'on appelle le grand véhicule Mahayana avec toutes sortes de bodhisattvas d'être éveillés, c'est Chine, Japon, Vietnam, Corée. Quant au Dalai Lama, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain, himalayen et mongolien, ou mongol plutôt, il est pratiqué seulement par 1 ou 2% des bouddhistes. Le Dalai Lama a une autorité extrêmement réduite sur le bouddhisme mondial, ce n'est pas le pape du bouddhisme. Voilà pour le bouddhisme. Alors, après le bouddhisme, on est à 5 maintenant, l'animisme, c'est-à-dire les religions locales, qui, je dirais, sont quand même en majorité plutôt africaines, notamment le vaudoun qui est pratiqué au Bénin, et puis aussi avec l'esclavage, il a été exporté en Haïti. Alors, combien d'animistes dans le monde? Moins de 200 millions, mais c'est très difficile de donner un chiffre précis. Ce sont les religions traditionnelles de l'Afrique qui reconnaissent en général des esprits dans la nature et qui aujourd'hui déclinent au profit de l'islam ou du christianisme, notamment le christianisme protestant évangélique. Bon. Donc, un christianisme, deux islam, trois hindouisme, quatre bouddhisme, cinq animisme, six, ben là, c'est embêtant. Parce qu'on a plusieurs religions qui se situent entre 10 et 20 millions, donc on descend beaucoup. Vous avez les sikhs en Inde, avec leur turban bien connu, etc. Bon, mais vous avez des religions, on hésite à parler de religion ou de secte, mais ça peut être considéré comme religion, c'est les témoins de Jéhovah qui seraient entre 10 et 15. Les mormons, ils seraient autour de 10 ou un peu plus. Mais il y a quand même une religion qu'on ne peut pas oublier parce que, encore une fois, les chiffres, ça n'est pas tout, c'est le judaïsme. Alors, il y aurait environ 13 à 14 millions de juifs dans le monde, c'est-à-dire pas plus et même un peu moins qu'en 1900. Pour plusieurs raisons. La première, c'est les terribles persécutions, les pogroms en Europe centrale au début du XXe siècle, fin XIXe, et surtout la Shoah hitlérienne à partir des années 30. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les mariages mixtes qui ont tendance à faire diminuer le pourcentage de juifs dans le monde. En même temps, le judaïsme a joué un rôle majeur au XXe siècle. Parmi les juifs, on doit quand même citer Freud, qui a révolutionné la psychologie, Einstein, qui a révolutionné la physique, et moi j'ajoute toujours Trigano, qui a révolutionné les loisirs en créant le club méditerranéen. Si vous voulez, pour prendre un seul exemple, les baby clubs, les crèches, tout ça, c'est Trigano qui a inventé ça. Il a repris ça au kibboutzim israélien, où pour que les femmes puissent travailler, on gardait les bébés et les petits-enfants. Les buffets à volonté, ça n'existait pas, tout ça. Donc, les loisirs ont été, tout ce qui est club de loisirs, tout ça, c'est Trigano qui a inventé ça. Donc je pense que dans le judaïsme, on ne peut pas dire il y a 14 millions de juifs, c'est très peu, ça diminue. Il n'y a pas que le facteur quantitatif qui joue dans une religion. Bon, voilà à peu près ce que je voulais dire sur le panorama des grandes religions dans le monde. Alors, quelle est l'évolution? Je n'en sais rien parce que ce sera un peu ma conclusion. Toute futurologie est vaine en matière de religion. C'est-à-dire, prenons le deuxième siècle, on leur aurait donné le culte de Mithra vainqueur contre le christianisme. Mithra était un dieu iranien, mais seuls les hommes avaient le droit de pratiquer. Or, si une religion est ouverte seulement aux hommes, c'est un peu difficile. Alors, le christianisme a valorisé certaines femmes, les vierges et les veuves, qui ont appris la religion aux enfants. Donc, le culte de Mithra s'est éteint, et le christianisme a prospéré. Ensuite, au 8e siècle, on aurait donné l'islam vainqueur partout, mais vous savez qu'à partir de la bataille de Poitiers, en 732, il y a eu une limite et l'islam a commencé à régresser en Europe. Au 16e siècle, on aurait dit, on est sûr que la réforme protestante va triompher. Or, elle s'est arrêtée dans sa progression au 17e siècle en Europe, Si vous regardez la carte des villages protestants et catholiques en Alsace, ça a très peu bougé depuis l'époque. Fin 19e siècle, début 20e, on aurait dit le marxisme athée va triompher partout. Or, avec la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, on a vu que le christianisme athée avait beaucoup perdu de terrain, et que par contre l'orthodoxie connaissait un certain renouveau en Russie, de la même façon qu'en Chine ou au Vietnam, le bouddhisme connaît une nouvelle jeunesse. Donc il n'y a rien d'inéluctable. Je suis totalement incapable de vous dire ce que sera l'avenir des religions. Et je cite souvent cette phrase d'un grand philosophe qui s'appelle Jean Gabin. Ça vous dit quelque chose, Jean Gabin, non? C'est un acteur extrêmement connu. Et qui avait une chanson où il disait « Voilà ce que j'ai appris en gros dans ma vie. Et maintenant que je suis vieux, disait Jean Gabin, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et alors, ça veut dire tout savoir est relatif, tout savoir est évolutif, et donc croire qu'un savoir, j'ai bien dit un savoir, pas une science, c'est autre chose, mais qu'un savoir actuel est pérenne, c'est-à-dire va durer, est un grave péché d'orgueil. Donc je suis incapable de vous dire ce que seront les religions dans 50 ans ou dans 100 ans. Cela étant, vous noterez quand même que dans l'ensemble, elles ont vécu 1500 ans, 2000 ans, 2500 ou 3000 ans. Donc, elles ne sont, à mon avis, pas prêtes de mourir. Voilà, je vous remercie. À vous de poser les questions.